11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Bonjour à tous, bienvenue dans le meilleur de Sud Radio. Je suis très contente d'être avec vous. J'aurai le plaisir de vous accompagner pendant une heure. Comme tous les week-ends, on va revenir ensemble sur tous les meilleurs moments de la semaine avec vos rendez-vous humour, vos débats et des invités encore exceptionnels cette semaine. Et on va démarrer tout de suite avec C'est votre avenir. Jeudi, c'est le médium Alexandre Delevan qui vous faisait ses prédictions. Et une auditrice nous a appelé parce qu'elle a du mal à vendre sa maison et parce qu'elle a été perturbée par un rêve qui semble prémonitoire. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
On vient récemment de mettre, la maison vient d'être mise en vente. On a eu du mal à la mettre en vente parce que c'est une grande maison. Donc les commerciaux nous ont fait un petit peu peur au niveau de la vente. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est, si ça va aboutir assez rapidement. Parce que du coup, ça me met en stand-by sur ma profession. Je souhaite retrouver une plus petite maison, mais une grande dépendance pour faire des ateliers et me mettre à mon compte. Donc je voudrais savoir si ça va aboutir assez rapidement, toutes ces démarches.
D'accord. Depuis combien de temps elle est en vente, la maison ?
Eh bien, après tant de démarches avec, vous savez, en France, on a plein de papiers à faire, le DPE,
oh oui,
etc.
Je sais.
Donc voilà, donc là, ça y est, elle est mise en vitrine depuis le début du mois. Donc,
donc c'est très récent.
C'est très récent.
Il y a eu vous avez eu des contacts, des visites ? Des touches
Non, vu qu'on attendait d'avoir ce DPE, on va attendre le commercial, mais ce qui fait peur, c'est la partie justement de ces commerciaux qui ne sentent pas le truc parce qu'ils disent elle est tellement grande qu'il n'y aura pas de clients. Vous savez, les gens sont assez négatifs alors que je suis quelqu'un de très positif, donc moi je garde toujours espoir. Bon, en plus, j'ai fait un rêve qui a appuyé cette positivité.
Alors justement, racontez-nous ce rêve.
Donc, c'était au petit matin du 11 novembre. J'ai mes amis à la maison et en haut de la mezzanine, je regarde en bas où il y a ma table de salle à manger et je vois six personnes, donc c'était six hommes avec des cheveux blancs, donc je pense que c'était des personnes assez sages et voilà. Et ils me regardent, ils me posent des questions déjà sur l'atelier, sur ce que je souhaite faire, etc. Et après, je me sens comme projetée sur un mur et une dame me dit, une sage aussi qui sort de la table, elle me dit c'est bon, ça va être vendu au prix où tu veux, etc. Donc je me suis réveillée tellement joyeuse après ce rêve parce qu'ils étaient assez sereins, donc voilà.
Est-ce que ces personnes avaient des visages familiers pour vous ?
Aucunement.
Aucunement.
J'avais l'impression que c'était des jumeaux. Enfin, ils se ressemblaient tous. Les mêmes yeux, les mêmes cheveux, comme si c'était un conseil de sage. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, je ne les connaissais pas.
Ils ne ressemblaient pas à Trina ou à moi-même. Ça aurait pu être un rêve prémonitoire, comme quoi vous étiez en train de nous appeler sur...
Avec des cheveux blancs dorés comme ça. Non, pas du tout.
Non, bon, ça va alors.
Non, pas encore les cheveux blancs. Dieu merci. Donc, en fait, il y avait combien de personnes ?
Alors, comme ma table, il y a 6 places assises, je pense que ça doit être 2, 4, 5, 6. Moi, j'avais marqué 6-7, mais c'est 6.
D'accord. Et est-ce que vous arriviez à vous voir, vous, leur répondre, ou vous ne voyez juste que dans le rêve ?
En fait, non. Moi, je vois les personnes, mais moi, dans le rêve, je ne me vois pas. Je sais que c'est moi qui est en train de voir cette vision, mais non, moi, je ne me vois pas.
D'accord. Et c'était le 11 novembre, hein, c'est ça ?
Oui, au petit matin, parce que je note toujours mes rêves sur mes cahiers, donc j'ai marqué dans la nuit du 10 au 11, mais je pense que c'était au réveil du matin pour m'en souvenir... comme ça, je fais toujours un petit vœu le soir avant de m'endormir en me disant il faut que je me rappelle de mes rêves.
C'est très bien, on le conseille souvent d'ailleurs.
Ça
d'accord, alors est-ce que vous faites souvent des rêves est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des rêves prémonitoires ?
Non, pas moi, ma fille oui, mais pas moi.
Fille.
Si. Alors, je mens parce que effectivement, mais alors ça m'est arrivé, mais vraiment pour m'en rappeler, c'est parce que j'ai acheté la maison que je suis en train de vendre, je l'ai achetée en me rappelant mes derniers rêves que j'avais fait il y a très longtemps, et quand j'ai vu l'escalier de cette maison, quand j'ai acheté celle-ci, j'ai dit c'est bizarre, je l'ai vu en rêve. Mais voilà, mais quand j'ai été chercher dans mes cahiers, j'avais même dessiné l'escalier de cette maison, et c'était 4 ans avant. Donc voilà, oui, ça m'est arrivé.
Oui, en effet. Donc vous êtes quand même quelqu'un d'assez intuitive.
Oui, mais bon, je suis artiste peintre pas pour rien.
En effet, c'est vrai que ça va avec.
Je peins mes visions et tout ça, voilà. Parce que sinon, je disais, c'est soit je suis peintre, soit je deviens folle. Parce que c'est vrai que des visions, j'en fais souvent, je fais des parties de corps et tout ça. Donc
d'accord.
Je n'interprète pas, je ne veux pas interpréter. Je peins parce que je trouve ça super beau ce que je vois. Et voilà, je donne la beauté à voir, comme on dit.
Alors Alexandre, ouais, oui. Avec puis, ce beau
plus,
témoignage.
Exactement, et en plus, avec cette capacité de pouvoir percevoir les choses, vous avez eu le pouvoir de la loi de l'attraction, parce que vous avez visualisé, imaginé une maison, comme vous disiez, avec l'escalier, et vous avez eu, dans la réalité des choses, vous avez eu cette maison-là. Donc ça, c'est très bien, vous avez une puissance en vous, donc ça, c'est bien. Alors, pour moi, de ce qui semble ressortir, c'est que dans cette maison, je sens que cette maison a toujours besoin d'activité. C'est comme si cette maison devait être exploitée pour y faire des activités. Donc, les personnes qui peuvent à nouveau devenir des nouveaux acheteurs, ce seront des personnes qui peuvent vouloir faire une activité dans cette maison. Elle a déjà eu des activités, cette maison ?
Ah ben oui, c'est un ancien restaurant, en fait. D'accord. Quand je l'ai acheté, donc il a été réhabilité en tant que maison d'habitation, mais oui, c'est un ancien restaurant qui a même vu, il paraît, dans l'histoire, il a même vu Mitterrand. Donc il y a une très grande salle dans cette maison avec des hauteurs de plafond pas possibles. Moi, elle me devient trop grande parce que mes enfants partent, ils sont plus âgés maintenant, et donc du coup, je prévois d'avoir plus petit.
Voilà. D'accord.
Mais effectivement, c'est une maison qui permet d'avoir une activité, d'avoir un indépendant, parce que moi j'ai mon atelier ici, mais on peut faire un cabinet comptable.
Ah d'accord, et donc vous-même, vous avez créé de l'activité au sein de cette maison hein.
Oui, d'accord, il y a mon atelier, oui. Il est indépendant, enfin il est dans la maison, mais il y a une entrée indépendante qui peut permettre justement à un indépendant de pouvoir...
Parfait Corinne. Donc pour moi, les personnes qui achèteront, peut-être qu'ils voudront faire peut-être une maison d'hôte ou vous voyez un aménagement ou peut-être réinstaurer quelque chose d'alimentaire, un secteur d'activité qui touche à l'alimentaire, c'est pas impossible parce que je ressens que ça continue au niveau de l'activité. Alors il y a deux choses où il y a une fragilité, c'est au niveau d'un accès. Donc comme si vous deviez revoir un petit peu l'accès de cette maison où ça peut-être freiner un petit peu les personnes qui viennent visiter cette maison liée à un accès, mais je ne crois pas que ça soit non plus la grosse difficulté. Et puis, on dirait aussi qu'auparavant, il y a eu des fragilités à répétition ou des problèmes un petit peu répétitifs sur tout ce qui est la hauteur ou la toiture. Il y a eu des choses qui semblaient apparaître par rapport à ça. Ça a été ça ?
Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de la toiture ?
Effectivement, quand on voit la salle et qu'on voit la hauteur de plafond, je pense que ça impressionne beaucoup parce qu'on se dit « Oh là là, pour chauffer et tout ». Donc nous, ce qu'on a fait, quand on est arrivé, on a mis une pompe à chaleur. Elle est très bien placée au niveau du DPE, elle a une très bonne lettre. Donc là, pour assurer les clients, effectivement, on a même mis une isolation du toit. On l'a fait pendant qu'on habitait ici. Donc,
et cet accès dont parle Alexandre ?
L'accès, je pense que il a été bouché parce que je crois qu'à l'époque, là où il y avait ma cuisine, il y avait, si ça devient un restaurant, parce que c'est ce que j'entends par Alexandre, effectivement, il y a une cave en dessous et je pense que l'accès peut gêner pour peut-être s'ils veulent faire des cuisines arrière ou des choses comme ça.
Il
faut réhabiliter un restaurant dans ce cas-là parce que là, c'est devenu une habitation. Hein. Moi, c'est vrai que je ne fais pas la cuisine. Hein. Je fais une cuisine de peinture, mais pas autre chose.
Parfait. Ouais, et alors après, ça peut être aussi par rapport à un accès extérieur. Bon, peu importe. En tous les cas, vous allez effectivement la vendre, cette maison, et je pense que vous allez avoir une proposition qui va arriver de manière très proche. Dans les 3-4 mois, je sens une opportunité pour vous. Alors, le temps qu'elle se vende et que tout ça se mette en place, mais ça risque de se faire, et on dirait qu'au printemps 2020, il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent à ce niveau-là. Et puis, pour revenir à votre rêve, moi, de ce que je pourrais interpréter, de ce que je recevrai, enfin, de ce que je reçois comme information, c'est en fait le nombre d'habitants qu'il peut avoir dans cette maison. C'est-à-dire que vous avez perçu 6 personnes, et je crois que c'est la capacité de cette maison des nouveaux acheteurs, où ils peuvent être 6 personnes à l'avenir. C'est ce qui me vient en termes d'information.
Par rapport à son rêve.
Exactement.
En tout cas, tenez-nous au courant, parce qu'apparemment, selon Alexandre, ça va se vendre plutôt vite. Donc, justement, si c'est une famille de 6 personnes, ou si... rappelez-nous pour nous le dire.
Oui. Et surtout, n'hésitez pas, comme vous savez le faire, Corinne, quand vous avez des gens qui viennent visiter, de les amener à voyager, et surtout à projeter ou à conceptualiser une autre maison que celle que vous avez conceptualisée aujourd'hui, pour que ça donne une autre dimension et que ça puisse ouvrir à plein de possibilités.
Le meilleur de Sud Radio.
Je vous retrouve lundi dans C'est votre avenir à 16h avec la numérologue Véronne. Allez rester sur Sud Radio, on va revenir dans un instant avec vos humoristes préférés. Un débat extrêmement intéressant sur l'avenir de l'hôpital. Notre invité Sidonie Bonnec qui est venue nous parler de son émission « Tout le monde a son mot à dire ». Vos séquences préférées et un invité exceptionnel au micro de Jacques Pessis. d'Adju. À tout de suite.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina Magdin.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio pour les moments les plus marquants de cette semaine. Et retour maintenant sur le canular de lundi de Sarah Kadour. Elle a piégé une femme chasseuse de fantômes à qui elle a demandé de l'aide pour protéger son amant. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais écoutez bien, c'est très fort.
Le meilleur de Sud Radio.
Allô ?
Oui, bonjour madame, vous êtes bien chasseuse de fantômes ?
Oui, c'est bien ça.
Bon, je vous explique. J'ai fait croire à mon mari qu'il avait vu un fantôme s'enfuir de notre chambre à coucher.
Okay.
Mais en fait, c'était mon amant qui est aussi le voisin et c'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois.
Ah, d'accord.
Donc, il m'a demandé de vous appeler pour que vous interveniez chez nous. Alors, est-ce qu'il est possible que vous jouiez le jeu ?
Non, mais vous vous rendez compte que de ce que vous me demandez là ?
Allez, s'il vous plaît, mon couple va éclater sinon.
Écoutez, ça c'est votre problème.
Bon, écoutez, je suis prête à vous payer le double d'une intervention normale.
Bon, laissez-moi réfléchir, je vais parler à mon collègue.
Bon, je vous rappelle cet après-midi, je serai avec mon mari, il y aura le haut-parleur. Hein, donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Je ne vous ai jamais appelé.
Oh là là.
Allez.
Bon, très bien. Rappelez-moi cet après-midi.
Bon, merci, merci beaucoup. Hein, je vous dis à tout à l'heure.
Au revoir.
Elle est gentille. Elle est cool.
C'est impossible dès qu'on met une petite rallonge sur la table.
Dès qu'il y a un peu de pognon, il y a toujours du monde.
Du coup, je l'ai rappelé en lui faisant croire qu'il y avait mon mari à côté. À votre avis, elle va jouer le jeu ? Elle va pas jouer le jeu ?
Moi, je pense qu'elle va jouer le jeu.
Suspense, non ? On écoute.
Allez, on écoute.
Allô ?
Allô, bonjour madame.
Oui, bonjour madame.
Je suis avec mon mari en haut-parleur.
Je vous écoute, racontez-moi.
Nous avons des fantômes dans notre maison, en particulier un qui visiblement a une attirance pour moi. Je pensais même que c'était mon amant.
Vous vivez en maison ou en appartement ?
Maison. C'est quelque chose de courant ?
Ah oui, c'est courant. Surtout si la maison est ancienne.
Alors, mon mari qui est à côté de moi demande s'il est normal qu'un fantôme soit à moitié nu.
Oui, c'est normal.
Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il me demande aussi pourquoi il pense avoir déjà surpris cette entité en train de m'embrasser à plusieurs reprises.
Mais... Il vous embrasse ou ça va plus loin ?
Eh bien, un jour, mon mari pense aussi l'avoir vu dans notre lit conjugal, à côté de moi. Du coup, ça l'a énormément contrarié. Hein.
Ah oui, en effet, je comprends.
Alors, il veut aussi savoir pourquoi ce fantôme ressemble étrangement au voisin.
Eh bien, peut-être que c'est un membre de sa famille qui est décédé.
Ah mais oui, tout s'explique. C'est peut-être son cousin ou son grand-père, d'où la ressemblance.
Oui, c'est possible aussi, oui.
Bon, il a une dernière question, il veut savoir pourquoi notre fils de 2 ans ressemble au voisin aussi. Est-ce qu'un fantôme peut procréer avec une personne vivante ?
Oui, c'est possible, oui.
Alors il est assez surpris, il demande comment c'est possible.
Ben, écoutez, vous me posez beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre tout de suite là.
Écoutez, il a un...
Bon, stop, je ne peux pas rentrer dans cette mascarade.
Vous ne raccrochez pas, j'ai quelque chose à vous dire, ne raccrochez pas.
Bah oui, non, c'est énorme.
Elle est sympa.
Elle est cool, elle est cool.
Joue pas mal le jeu quand même.
Ouais.
Super cool. Fantôme nu, bah oui, ça arrive.
C'est normal, ne vous inquiétez pas.
Et
du
on appellera votre mari après pour savoir ce qu'il en pense.
Du coup, je l'ai rappelé pour lui dire ça.
Oui,
bien sûr, on écoute.
Allô ? Madame ? Ne raccrochez pas, c'était un canular pour la radio.
Ah là là, vous m'avez bien eu, hein.
Il n'y a pas d'amant, il n'y a pas de fantôme. En tout cas, si j'en vois un, je vous appelle direct. Hein. Merci mille fois, vous étiez prête à me sauver la mise. Merci.
Vraiment, bravo.
Vous faites une bonne continuation et échangez pas.
Oui,
au revoir.
Merci, au revoir.
Le meilleur de Sud Radio.
Et vous retrouverez le fameux duo du Grand Matin Sud Radio, Patrick Roger et Cécile de Minibus, dès lundi à 6h. Allez, on continue avec un autre moment fort de la semaine. C'était mardi dans Les Vraies Voix. Christophe Bordet et son équipe de chroniqueurs, Philippe Bilger, Jean Dorido et Sophie Darel ont reçu le docteur Gérald Kirzek, médecin urgentiste venu débattre sur Macron et l'hôpital. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Dites-moi, augmenter le budget des hôpitaux. Alors, il était prévu, je crois, 2,3%, hein, c'est ça. Et on nous parle maintenant de 2,5, c'est ce que pourrait annoncer le Premier ministre demain.
C'est ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est combien chaque année on va augmenter un peu le budget de la Sécu. C'est pas que les hôpitaux, il y a les soins de ville,
oui,
il y a
ça,
les hôpitaux
c'est le
dedans.
De la sécu. C'est bien ça, ou c'est pas bien ça
bah, non, enfin, c'est pas bien. Les dépenses de santé,
bah,
elles dépenses de santé, elles augmentent de plus de 4%. Donc ce qui veut dire que tant qu'on n'est pas à 4% d'objectif, ça veut dire qu'on est en dessous des dépenses. C'est-à-dire que les besoins ne sont pas couverts par le financement. Donc après, dans ce pays, on peut dire politiquement, bah on décide de plus soigner les plus de 75 ans. Ou on décide de sélectionner. Absolument. Une des solutions, vous savez, c'est un commissaire au plan dans les années 80 qui avait dit la solution au trou de la Sécu, c'est l'euthanasie. C'est-à-dire que si on décide... Non,
c'est terrible quand même.
Mais oui, mais c'est terrible. Mais c'est ça la réalité. Si on veut être cohérent, les dépenses sont à plus de 4%, il faut arrêter de nous raconter des cracks. De toute façon, elles vont augmenter parce que la population vieillit, parce que les soins s'améliorent. Donc de toute façon, les dépenses, elles vont augmenter. Donc soit politiquement, on les suit, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un objectif de dépenses d'assurance maladie qui suit ces dépenses et qui a plus de 4%. Et c'est d'ailleurs dans les revendications de tous les professionnels en ce moment, c'est un ONDAM à 4%. Tout ce qui sera en dessous de 4%, ça veut dire que de toute façon, on couvre pas les besoins. Donc on peut raconter après tout ce qu'on veut, ça veut dire qu'on réduit un petit peu. Donc que ça soit 2-1, 2-2, 2-3, même 2-5 comme ce qu'on entend qui va être annoncé demain, ça ne va pas changer, c'est-à-dire qu'on sera toujours en deçà et donc on va continuer à creuser la dette.
Dorido.
Oui, bah écoutez, c'est assez désespérant à entendre, d'autant plus désespérant que c'est manifestement et précisément la réalité. C'est vrai que la France a tendance à se tiers-mondiser, si j'ose dire. C'est vrai
oui, parce qu'on on est considéré comme un pays où on se soigne bien, enfin, bah,
c'est-à-dire que
en général.
Nous avons été à la pointe.
On était considéré.
Ouais. Et c'est vraiment très triste, et c'est vrai que c'est à l'instar de tant d'autres domaines. Quand on s'intéresse au réseau ferré, on se rend compte que justement il n'y a pas eu la maintenance nécessaire et que tout est de plus en plus vétuste et va à volo. Et là, c'est vrai qu'il s'agit de la santé des Français qui ont payé quand même le prix fort toute leur vie et qui se retrouvent à vraiment dégringoler de toutes parts. C'est vraiment très triste.
Est-ce que ça veut dire, Gérald, que l'impératif financier ne peut jamais être pris en compte dans la gestion de l'hôpital ?
Il y a deux choses. Il y a un, l'impératif financier, donc il y a le carnet de chèques et il faut effectivement augmenter parce qu'on a serré le kiki de l'hôpital depuis des années et des années. Mais surtout, la deuxième chose, c'est qu'il faut revoir qui est aux manettes. C'est-à-dire ceux qui nous emmènent dans le mur, qui sont aux manettes, les gestionnaires...
Mais ils ne connaissent rien.
Avec des outils, des tableurs Excel, des grands concepts ambulatoires, etc., ne sont pas au fait des réalités médicales. Moi, je cite souvent l'exemple qui m'a frappé il y a quelques semaines, un de mes potes patron de chirurgie thoracique qui opère des cancers du poumon. Il y a des petits gabarits, des gros gabarits, des moyens gabarits. Il a besoin de trois types de pinces. Quand vous avez un jeune directeur des achats, tout frais moulu de Sciences Po, qui est peut-être passé éventuellement par une école de commerce, etc., qui a fait l'école de Rennes, parce qu'il faut bien dire à nos auditeurs et auditrices que les directeurs d'hôpitaux ne sont pas des soignants, et qui lui dit, bah, professeur, il faut choisir maintenant entre la petite, la moyenne ou la grande pince.
Ça, c'est effrayant.
Et ce qui est aberrant, c'est que derrière, ça va créer des douleurs, donc des surcoûts en termes d'hospitalisation, mais c'est pas grave. Comme on est dans un système de tarification à l'activité, ça augmentera l'activité de l'hôpital. Le confort ou la douleur du malade, on n'en a rien à foutre. Le confort du chirurgien, on n'en a rien à faire non plus. Donc on voit bien que ceux qui sont aux manettes, au-delà du chèque qu'on va faire, et il va falloir compenser le sous-investissement depuis des années, c'est qui va dépenser ce chèque-là. Et tant qu'on n'aura pas changé la gouvernance, c'est-à-dire remettre les hospitaliers, les médecins, les professionnels, les infirmières et les patients aux manettes, dans une vraie démocratie sanitaire, on n'aura rien compris et on va continuer à aller dans le mur. C'est ça le monde, le new management public ou le monde néolibéral.
Sophie Darel, quand vous entendez tout ça, vous vous dites j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'imagine.
Heureusement que je suis bien entourée, parce qu'après tout ce que j'ai entendu...
Vous êtes en bonne santé, hein, vous mieux être en bonne santé. Non mais c'est vrai. Oh vous êtes déjà allé à l'hôpital, vous avez été hospitalisé déjà, vous.
Plein de fois, oui, j'ai eu malheureusement des gros problèmes
et
de santé.
C'est vrai que là, on dit beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent paraître un peu négatives par rapport à l'hôpital. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, et puis on va terminer, évidemment, le débat. Pour avoir aussi fréquenté les hôpitaux pour de la famille, etc., ces dernières années, j'ai quand même toujours été épaté, je tiens vraiment à le dire, j'étais épaté par des personnels qui donnaient véritablement tout ce qu'ils pouvaient. Mais vraiment, mais
ça ne tient que sur le dévouement. Du personnel,
bien sûr.
Et tout le personnel.
Le meilleur de Sud Radio.
Les Vraies Voix et Christophe Bordet seront de retour dès lundi à 17h. Allez, on va revenir dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec deux invités exceptionnels, Sidonie Bonnec et Dadju. A tout de suite.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Merci d'être avec nous pour la suite du meilleur de Sud Radio. Tous les moments forts de cette semaine sélectionnés pour vous, comme tous les week-ends. Et avant de poursuivre, on va écouter un titre du groupe Trio, sorti en 1998, que vous connaissez très bien chez vous, j'en suis sûre. Et pour fêter ses 25 ans de carrière, le groupe vient d'en sortir une version plus actuelle, en s'attribuant les services de Big Flo et Oli, Claudio Capéo, Gauvin Serres, Boulevard Désert, L.E.G., Vianney et Zaz. Rien que ça, voici l'hymne de nos campagnes sur Sud Radio.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même. Au retiens, va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas si tu n'as rien et sois le premier à chanter ce refrain. Ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
Assieds-toi pris dans vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal.
Pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Que si le béton est ton avenir,
dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
J'aimerais pour tous les animaux
que tu captes le message de mes mots.
Car en lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots.
C'était l'hymne de nos campagnes sur Sud Radio. Et d'ailleurs, pour info, sachez que le groupe Trio sortira son nouvel album en 2020. Et si vous avez loupé le 10h midi de mardi, je vous propose de réécouter tout de suite l'invité média du jour. C'est Denis Bonnet qui est venu présenter son émission Tout le monde a son mot à dire. Et elle a répondu aux questions de Valérie Expert et de Gilles Ganzmann.
Le meilleur de Sud Radio.
Alors, on va passer à votre actualité. Tout le monde a son mot à dire, du lundi au vendredi, donc 17h55 avec Olivier Mine. Vous amusez à faire ce jeu?
C'est extraordinaire. Au début, quand on m'a proposé de faire un jeu, j'étais un peu étonnée parce que je me disais, oui, alors c'est vrai que je suis plutôt animatrice, journaliste, mais je n'avais jamais fait de jeu. Et
Pourquoi vous avez accepté, justement?
Alors, j'ai accepté parce qu'on m'a dit, écoute, tu vas être la même. Ça sera à toi, avec ton goût de raconter des histoires, de donner des infos, et ton goût des fous rires, des vannes. Tu feras tout ça, mais ça sera un jeu, et donc enfin un divertissement. Et j'ai accepté, et en fait, quand j'y suis, je suis moi. Et ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de bien faire mon boulot. C'est vrai que c'est une émission où on se régale, parce qu'en effet, il y a des règles du jeu, il y a de l'argent à gagner, il y a des réponses à donner, mais c'est un vrai talk show, on a des invités hyper sympas autour de la table, ça rigole, ça vanne, c'est extraordinaire.
Et vous n'avez jamais envie d'être seul? Vous ne dites pas qu'ils avaient besoin d'une fille, et c'est pour ça qu'ils vous ont pris?
Non, parce que quand j'ai fait le casting, ils m'ont vraiment choisi pour moi. Et ce n'était pas pour forcément accompagner quelqu'un. Dans ce sens,
vous avez chacun votre rôle, c'est ça? Vous sentez que
exactement.
Vous êtes chacun...
Nos personnalités, surtout. On a le même rôle, mais on a des personnalités. Et je suis absolument... Et d'ailleurs, dans tout ce que je fais, je ne suis jamais la fille du groupe. La curiosité non plus, ma radio. J'ai mon rôle à moi, et il faut le dire, parce que c'est aussi ça qui montre que
les femmes... Ce n'est pas toujours facile, les duos, justement.
Et alors, j'ai beaucoup
de chance. Vous avez beaucoup de chance.
Parce que j'ai des patrons qui réunissent bien les bons duos, c'est-à-dire
Et puis vous avez de la chance avec vos partenaires.
Exactement.
Aussi, c'est-à-dire que Thomas Hugues,
mec extraordinaire, voilà. Olivier Mine, élégance, intelligence, je travaille avec des super gars, donc évidemment c'est très agréable. Et puis vous savez quoi, j'ai très bon caractère et je suis facile à travailler aussi, il faut le dire.
Voilà. Non mais voilà, annonce est faite. Mais c'est vrai qu'on peut être facile à travailler et avoir les duos sont pas toujours évidents.
J'ai eu d'autres duos pas toujours réussis, mais ça dure pas très longtemps en général. Je dirais pas, par respect pour la personne.
Pas avec Lefebvre, ça s'est passé bien.
Ah non, sur Paul Lefebvre. Vous
souvenez même les émissions de faits divers, absolument.
Et d'ailleurs, Paul Lefebvre était ma bimbo, rappelez-vous. C'était la patronne de l'émission
c'est
et c'était
vrai.
Ma bimbo.
C'était
on en rigolait beaucoup.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme émission à la télévision?
Non, mais ce que je fais, je m'éclate tellement. C'est une quotidienne, ça prend tellement de temps, je m'éclate. Allez, peut-être cette émission en prime, pour qu'on nous voit encore plus, qu'il y ait encore plus de délire, un groupe qui vient
jouer. Elle marche très bien, l'émission. Hein. Hier, les audiences, c'était 1 547 000 téléspectateurs, 12% de part de marché.
C'est un énorme carton.
La semaine dernière, 1 547 000, le 12. Enfin, l'année dernière, vous étiez plutôt aux alentours de, 1 300 000. Donc,
en fait,
ça veut dire que c'est une émission
ans.
qui fonctionne et qui progresse. Et,
Exactement. Elle ne cesse de progresser. Et ça, c'est grâce à la production Banijé et à la chaîne France 2 qui... Déjà, on bosse régulièrement sur l'émission pour l'améliorer, évidemment. Et ils nous laissent le temps de grandir. C'est ce qu'il faut faire pour les émissions. Il faut laisser le temps de se faire connaître, de se faire aimer. Et maintenant, quand je croise des gens dans la rue, et j'en croise quand même pas mal, ils me disent « Mais c'est bon quand vous êtes chez nous, on apprend des choses en même temps, vous êtes des bons copains, on se marre. Et puis, c'est sympa quand vous envoyez bouler Olivier Mine, on dirait un vieux coup, vous êtes trop mignon. » Ça fait du bien, quoi. Et nous, on a envie de programmes qui font du bien. Nous, on se régale à le faire. Et les gens le reçoivent comme ça. Voilà.
Mickaël demande avec quelle célébrité vous vous entendez le mieux dans Tout le monde a son mot à dire.
Ah, c'est marrant. Bah, moi, je m'entends avec,
avec tout le monde.
Tout le monde.
Oui, mais
j'ai un petit faible pour Arnaud Gidoin parce que j'aime beaucoup le comédien qu'il est. Puis j'ai découvert sa femme, Gaëlle Gauthier, qui vient dans l'émission, qui est aussi comédienne. Ils ont une très jolie pièce d'ailleurs qui s'appelle Coup de foudre à Bois-Colombes, je vous le dis si vous passez à Paris. Ouais. Ils sont vraiment adorables et très, très talentueux. Ils me plaisent bien, voilà. Ouais. Mais je les aime tous. Hein. Vous savez, je vis avec eux depuis 3 ans.
Oui, mais après, on a des affinités. Donc, ça, c'est ce que Mickaël. Et Mickaël avait une autre question. Visiblement, il est fan de l'émission. Quel est le meilleur souvenir de l'émission? Est-ce que c'est Grégory Moalic qui avait gagné 215 000 euros?
Ah oui, les grands champions, c'est magnifique. Ouais. Parce qu'on vibre pour eux. Ils sont brillants. Souvent, c'est des gens très simples et très gentils. Et voilà. Et puis, quand les voix chuter, on a de la peine, mais enfin, ils repartent quand même avec beaucoup d'argent, beaucoup de bons souvenirs et de fou rire.
On peut partir avec autant d'argent dans l'émission, j'imaginais pas 215 000
euros. On va vous voir bientôt.
Gilles va aller participer.
Je suis très bon, je regarde de temps en temps.
Ça ne m'étonne pas.
Mais oui.
Eh bien, je vous pistonnerai pour les castings. Non, j'ai pas le droit.
Avec plaisir.
Allez, naturel pour le meilleur et pour le reste, le livre que vous avez coécrit avec Marie Drucker, qui est paru chez Fayard. Donc, en fait, on l'a rappelé, vous aviez déjà écrit un livre avec elle et vous vous êtes dit, quoi, on a trop d'informations. On a trop d'alertes.
C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a des pesticides dans les couches, qu'il y a des bulles dans la nourriture, qu'il y a des composés organiques volatiles qui sortent des meubles. Enfin bref, donc c'est bien, on est informé, mais on a peur. Et surtout, on ne sait plus comment consommer. Et chacune de notre côté, avec Marie, on avait glané ces solutions de remplacement. Et encore une fois, un jour, on s'est dit, faisons-le ce guide. Et on a enquêté plus, évidemment, parce qu'il fallait apporter des réponses dans l'alimentation. La maison, les enfants, les cosmétiques, les soins du quotidien. Et donc, c'est 2 ans de boulot quand même.
Et vous faites tout ce qu'il y a dans le livre?
On ne fait pas tout, parce qu'en en fait, on n'est pas folle.
Ouais.
Puis non, c'est un boulot
mais
quotidien.
Ça rend dingue,
on ne peut pas être parfait. Mais, je ne sais pas, par exemple, vous, Valérie, je ne sais pas si l'alimentation, c'est très important pour vous. Il y a des petits points
si
sur lesquels... Non, mais vous voulez dire, les poissons, je sais qu'il y a du mercure dedans, je ne sais pas lesquels privilégier, combien de fois. On répond à la question. Chacun va piocher en fait en fonction de son mode de vie, de ce qu'il aime.
De son mode de vie et de ce qu'il aime.
Surtout n'appliquez pas tout. Vous allez devenir fou. Hein. Ça sert à rien. Mais c'est vraiment, il y a un super sommaire. Vous pouvez vous guider vous guider hyper facilement et modifier des petites choses. L'idée, c'est de consommer mieux, de se faire du bien, d'éviter les pesticides et les ingrédients nocifs pour votre santé. Faire gaffe à la planète et dépenser moins aussi, parce qu'en fait, ça fait faire des économies.
Oui, ça nous ramène au sujet dont on va parler dans un instant sur les vêtements. Justement, acheter moins de vêtements, et on voit qu'il y a une vraie vogue de revente de vêtements, qui
c'est
se
vrai.
Rachètent et on consomme moins.
Il y a plein d'applis sur les smartphones qui vous permettent d'acheter des vêtements pas très chers de marque, mais c'est très bien. Moi, je partage, si j'ai 2 t-shirts pareils, j'en donne un. Enfin, je veux dire, ça sert à rien, n'accumulons pas. Ouais. Moins, c'est mieux.
Ouais. Quel est le geste que vous nous recommandez, s'il y en a un à retenir, facile pour tous?
Un pour faire une grosse économie tout de suite, vous ne rachetez plus aucun produit ménager, vous achetez un litre de vinaigre blanc, un petit paquet de bicarbonate de soude, maintenant on fait ça depuis des années.
Ouais.
Et si vous voulez aller un peu de savon noir, ça va vous coûter 4 euros par mois et vous pourrez nettoyer toute votre maison sans empoisonner vos enfants, ni une femme enceinte, ni votre vieux papa, par exemple, qui vit avec vous. Et ça, c'est très important.
Moi, je suis comme dans C'est à vous. J'ai retenu le préservatif bio.
Écoutez,
et vegan.
Naturel pour le meilleur et pour le reste. Donc, c'est chez Fayard. Et puis, évidemment, tout le monde a son mot à dire. Carton tous les soirs sur France 2 à 17h55. Vous êtes aux côtés d'Olivier Mine. Merci infiniment, Sidonie.
Je suis très contente d'être là.
Le meilleur de Sud Radio.
Valérie Expert, Gilles Gansman, que vous retrouverez lundi à 10h sur Sud Radio. On va maintenant passer à notre rubrique Curieux comme Rémi. Jeudi, Rémi André analysait pour vous la relation entre l'homme et l'environnement. C'était dans le Grand Matin, Sud Radio, aux côtés de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Bon, on va parler de ce projet de loi de finances qui a été voté mercredi sur fond d'urgence écologique. Depuis plusieurs associations ont critiqué l'absence d'ambition de ce texte, notamment en ce qui concerne le financement en matière de préservation de la biodiversité. Rémi, elle a toujours été conflictuelle, cette relation entre l'homme et son environnement.
Mais quand je vous le disais, à l'aube de l'humanité, l'écosystème vivait paisiblement. Les équilibres étaient plutôt respectés, puisque l'humain ne représentait que 0,1% de la masse globale de la biodiversité. De nos jours, l'humain et ses animaux domestiques occupent 90% de la biomasse des mammifères. 90% et la biodiversité s'écroule. L'équilibre a donc été rompu.
Est-ce qu'on l'a vu venir, cette rupture de l'équilibre ?
Alors oui et non. Hein. Comme disent les Normands, l'équilibre était voué à se rompre dès lors que l'humain s'est sédentarisé. La fin du nomadisme a engendré un bond démographique et qui s'est aggravé au fur et à mesure que les conditions de vie se sont améliorées. Mais s'installer dans un lieu fixe a surtout eu comme conséquence de modifier l'écosystème. Durablement, l'agriculture, l'élevage, la domestication, tout cela a marqué notre empreinte sur l'harmonie du vivant. On adapte ce qui nous entoure à nos besoins et nos envies, ce qui réduit la place laissée aux sauvages.
Tout ça jusqu'à un point de domination majeur de l'environnement par l'homme.
Oui, et puis jusqu'au moment où l'on a dépassé les bornes, en fait, sans réaliser les conséquences de nos modes de vie. On en est petit à petit arrivé à consommer les ressources de 3 planètes Terre chaque année. Alors évidemment, ce chiffre varie drastiquement selon les pays. Il fait référence au fameux jour du dépassement qui avance tous les ans pour nous indiquer non seulement que nos façons de vivre ne sont pas soutenables, mais de surcroît qu'elles le sont de moins en moins.
Est-ce qu'il est trop tard pour faire machine arrière, Rémi ?
Alors, malgré tout, il semble qu'une petite note d'espoir persiste. Le point de rupture n'est pas encore atteint. Les espèces animales et végétales sont infiniment résilientes, tant qu'elles ne sont pas éteintes, évidemment. Alors aujourd'hui, il suffirait par exemple d'arrêter de pêcher pendant 2 ans et les stocks se referaient. Mmh. C'est ce que nous a expliqué Gilles Leboeuf, le président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, à la rédaction du site Futura Science.
Mais maintenant qu'on sait ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ?
C'est ce qui le désespère, et nous avec d'ailleurs. Hein. Bah oui. Le plus cocasse dans cette histoire, vous savez, c'est que l'humain s'est nommé lui-même Homo sapiens. Mmh. Or, sapiens signifie intelligent, sage, raisonnable et prudent. Or, l'humain sapiens fait partie et dépend de la biodiversité. Et de la qualité de cette dernière dépend notre qualité de vie. D'ailleurs, c'est l'association Humanité et Biodiversité, présidée par Hubert Rive, qui s'est élevée avant-hier pour dénoncer le manque de moyens affectés à la préservation de la biodiversité dans la loi de finances 2020.
Le meilleur de Sud Radio.
Et rendez-vous dans le Grand Matin Sud Radio dès lundi à 6h. Surtout, ne bougez pas, on va se retrouver dans un instant pour la suite du meilleur de Sud Radio avec un invité qui se fait rare dans les médias et qui a répondu aux questions de Jacques Pessis dans Les Clés d'une Vie. D'adieu, à tout de suite.
11h midi, le meilleur de Sud Radio. Trina McDean.
Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Comme tous les week-ends, on revient ensemble sur les meilleurs moments de la semaine. Et avant de retrouver l'interview de Dadju au micro de Jacques Pessis, je vous propose d'écouter un titre qui va vous transporter. Sorti en 2002, il a explosé tous les records avec la première place en Argentine, en Hongrie, en Italie, en Inde, en Lettonie, au Portugal, au Mexique et aux Pays-Bas. Et son interprète fait craquer les filles depuis le début de sa carrière en 1991. Voici Robbie Williams avec Phil sur Sud Radio.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plan. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death,
that's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I got too much light running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love in the rafters. I cannot get
dans le meilleur de Sud Radio, Robbie Williams qui sera invité d'honneur et président du jury de Miss France 2020 à Marseille le 14 décembre. C'est un événement. Allez, on va terminer avec un autre artiste qui bat tous les records, c'est Dadju. Le frère de Maître Gims est aujourd'hui un véritable phénomène du rap et dans le cadre de la sortie de son nouvel album Poison, il a choisi Sud Radio et les clés d'une vie pour faire ses confidences à Jacques Pessis, notamment sur ses influences musicales. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
15 novembre dernier, il y a quelques jours, sorti d'un album que beaucoup de fans attendaient, Poison.
Yes. Alors,
pourquoi Poison comme titre d'abord ?
Parce que je montre toute la, tout le côté négatif. En fait, c'est un autre angle de vue que j'ai voulu aborder. Je montre tout le côté négatif de l'amour, tout le côté négatif de l'argent, le succès. J'ai beaucoup parlé... J'ai été très positif ces deux dernières années. Et dans ma vie, ça va toujours. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Mais c'est juste que je suis très, très réaliste. Et j'aime bien dire aux gens que voilà, dans l'amour, tu peux avoir des jours où tout va bien. Et tu peux avoir des jours où tout va mal, en fait. Et j'ai vraiment voulu expliquer que parfois, ça va mal. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Poison.
Voilà, mais il n'y a pas de titre qui s'appelle Poison. En revanche, il y a un titre qui s'appelle Compliqué.
T'as beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout pour me faire appliquer, ouais. J'ai voulu être clair, ma demoiselle a paniqué. Dans tous les cas, ça finit mal.
Ça finit mal, mais ça finit bien pour cette chanson, puisque en deux mois, cette chanson est devenue single d'or.
Single d'or, ouais.
Et ça aussi, c'est une nouvelle méthode. On sort une chanson comme ça, ce qui annonce l'album, qui donne envie.
Ouais, exactement. Ouais, non, mais après, ça fait un moment que ça existe, de teaser un peu l'album par des petits sons un peu par-ci par-là.
Voilà. Vous attendiez à ce que cette chanson soit un succès immédiat ?
Honnêtement, on avait des attentes, mais le son a dépassé nos attentes, en fait. Ça veut dire qu'on s'attendait, on voulait quand même que ce son soit un hit au final. on espérait que ce son devienne un hit, mais c'est devenu un hit et c'est resté un hit. C'est surtout ça le plus important, c'est que même quand on pensait que c'était fini, jusqu'à aujourd'hui, est compliqué, c'est toujours, il est toujours là en fait.
Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous ne supportez pas l'idée de l'échec.
Ouais. Je déteste. Je suis même un petit peu mauvais perdant.
C'est-à-dire?
Je remets chaque échec sur moi en fait. Pour moi, c'est toujours ça sera de ma faute. Si c'est que j'ai quelque chose que j'ai mal fait. Si ça, on n'a pas réussi à faire ça, c'est que j'ai pas été assez bon sur ça, c'est que j'ai pas réfléchi sur ça, c'est que j'ai pas eu comme ça l'idée de faire ça. Je remets souvent l'échec sur moi.
Et finalement, vous y êtes pour rien en général, parce qu'une chanson, c'est ou autre chose, c'est le public qui décide.
Ouais, si c'est vrai. Au final, c'est le public qui décide. Mais bon, si le public n'aime pas, je vais me dire que peut-être que ma musique n'était pas assez bonne.
Vos deux premiers albums, lorsque vous étiez en duo, ont marché, mais ils n'ont pas été disques d'or et ça vous a presque traumatisé.
Ben ça nous a piqué parce que c'est une reconnaissance en fait. Quand tu fais quelque chose et que tu reçois un titre pour ça. Moi, je suis pas vraiment fan des disques d'or dans le sens où j'accroche rien chez moi, je mets pas de disques d'or, tout ça chez moi, mais c'est juste de savoir que t'as atteint ce palier et que t'as réussi. Et ben ça c'est une victoire en soi. Donc quand on n'a pas eu le disque d'or, bien sûr, ça nous a piqué.
Vraiment. C'est moral avant tout.
Ouais, vraiment.
Alors, dans cet album Poison qui est sorti donc vendredi dernier, il y a une autre chanson qui elle aussi a été un succès immédiat. C'est Ma Vie.
T'as détruit ma vie, ma vie. T'as détruit ma vie, ma vie. T'as détruit ma vie, ma vie. Ma vie, oh vie, ma vie.
Alors ça aussi, c'est une chanson, les sonorités, ça rappelle les mélodies des années 50-60.
Ouais, exactement. C'est fait exprès.
Ouais,
je suis un grand fan de Otis Redding et j'étais dans ces ambiances-là quand j'ai composé Ma Vie. Et voilà, ça a été un petit clin d'œil à cette époque-là.
C'est-à-dire que vous êtes fasciné par cette époque où on inventait des mélodies.
Exactement. Et c'était la pure voix. C'était il y avait pas de feu d'artifice. Il y avait pas de rien. Il y avait juste un petit instrument et la voix du mec.
C'est ce que vous faites aussi.
Bah, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas.
Parce que vous considérez que c'est la pureté totale ?
Les vrais artistes n'ont besoin de rien.
Exactement. Il y a tellement de faux artistes qu'on a trafiqués en studio. Et il fut un temps, avant 1934, avant Jean Sablon, on n'avait même pas de micro sur scène.
Ouais, si, c'est vrai.
Ça, c'est...
Après chaque artiste évolue avec son temps. Donc il faut accepter chaque différence. Mais c'est vrai que. Les artistes qui n'ont besoin de rien, c'est souvent les artistes les plus forts.
Le meilleur de Sud Radio.
Et vous retrouverez Jacques Pessis dès lundi à 13h20 dans Les Clés d'une Vie. Merci à tous d'avoir été à l'écoute du meilleur de Sud Radio. On se retrouve le week-end prochain. Et si vous voulez réécouter l'émission, il suffit de vous rendre directement sur notre site sudradio.fr, rubrique podcast. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Nathalie Schreingerma pour C'est ça la France. Puis juste après, ça sera Invino avec Alain Marty. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio. Ciao.